bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, notre Parlons Patrimoine, nous parlons de la synagogue de Wolfisheim, de la communauté de Wolfisheim. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui exceptionnellement en studio Monsieur Claude Hermann, le vice-président de la communauté de Wolfisheim, et Yoav Rossano, on le dit toujours, le Monsieur Patrimoine du Consistoire israélite du Bas-Rhin, pour une émission où nous allons apprendre plein de choses sur cette synagogue, déjà pour commencer, qui a été construite en 1894. Monsieur Claude Hermann, Yoav, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Alors, dites-moi, Monsieur Hermann, cette synagogue qui date de 1894, c'est une grande chance. Elle n'a pas été abîmée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été pillée en revanche, mais pas abîmée. Et elle est dans l'état où elle a été construite sans modification.
Avec des rénovations quand même, mais elle n'a surtout pas été abîmée parce que, contrairement au village et aux villes avoisinantes, Wolfisheim, le maire et les gens de Wolfisheim ont dit à ceux qui voulaient la détruire qu'ils voulaient en faire une grange, qu'ils en avaient absolument besoin pour conserver leurs affaires dedans. Et c'est grâce aux villageois, grâce uniquement aux villageois et à leur maire, que cette synagogue n'a pas été détruite, alors que Lingolsheim, Oberschewolsheim et autres ont été détruites, tous les villages avoisinants.
Ce qui en fait ce joyau, cette synagogue en grès des Vosges, qui est, on va dire, elle est charmante. À l'intérieur, beaucoup de dorures. On retrouve ce verre antique qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les synagogues. Il y a une signification, ce verre antique?
Ça, j'en sais trop rien, mais ce que je peux dire, c'est que la synagogue, elle a une âme. Et des synagogues de ce type qui fonctionnent encore à aujourd'hui, où il y a encore des offices, il n'y en a pratiquement pas. Et donc, en fait, ce qu'on a fait ces derniers temps par rapport à cette synagogue, c'est qu'on a refait complètement les vitraux. Alors, la lumière rentre à nouveau à l'intérieur. On va faire là le tableau de commande électrique parce que nos prédécesseurs, ils ont mis un certain nombre de verrues, ce qui fait que le tableau, il n'est plus tout à fait comme il devrait être. Donc, on a eu l'accord du consistoire pour le faire. On essaie de la maintenir en état et surtout, dans les années 2000, nos prédécesseurs, avec le concours du patrimoine, ont refait complètement les peintures telles qu'elles étaient à l'époque. Donc, à aujourd'hui, en gros, l'état de la synagogue au niveau peinture et au niveau fresque est celui d'origine, mais rénové en 2000.
Il y a un cahier des charges pour ça, les monuments historiques,
absolument.
Ou la draque qui
absolument.
Qui
bon, va... je ne sais pas pour quelle raison la synagogue n'est pas classée, mais en fait, ce travail a été fait avec les monuments historiques et avec des gens, des experts des monuments historiques. Ce n'est pas les gens de la communauté qui ont fait la rénovation telle qu'ils souhaitaient la faire.
Aujourd'hui, dans l'état où elle est, elle nécessite encore des travaux?
Alors, le gros problème que nous avons à aujourd'hui, il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. En fait, la synagogue, tout le système de gouttières est sur l'ensemble de la synagogue, sauf la façade en grès. Ce qui fait que la pluie qui tombe sur le sol rejaillit sur la façade de grès, et la façade en grès, sur la partie basse, il y a une érosion certaine. Alors nos prédécesseurs, encore une fois, ils ont colmaté les brèches, ils ont fait des choses qui sont plus ou moins jolies, mais qui permettaient quand même de retrouver une certaine harmonie. Mais nous, on va essayer de s'attaquer, mais ça va nous coûter un peu beaucoup plus cher. On va essayer de s'attaquer à la cause et pas aux effets. Et donc, on est en train de préparer un dossier où Yoa va nous aider, d'ailleurs, pour essayer de trouver des gens. On a déjà un devis d'une personne qui est tout à fait compétente, mais hasard en l'occurrence. Mais on pense, il faut qu'on demande... L'habitude avec le consistoire, c'est d'avoir au minimum 3 devis. Donc, on va essayer de trouver 2 autres spécialistes. Par exemple, pour les vitraux, c'était très, très difficile. Les vitraux en Alsace, il y a un seul vrai spécialiste. Donc, on a réussi à en trouver d'autres, mais ceux qu'on avait trouvés étaient en fait des gens qui avaient appris chez celui-là. Le vrai spécialiste, il n'y en a qu'un.
Il n'en reste qu'un en Alsace.
Il n'y en a qu'un. Un vrai, 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 de vrai, qui sait tout faire, oui, il n'y en a qu'un.
Et c'est lui qui a travaillé sur cette synagogue?
C'est lui qui a fait les vitraux quand on les a fait il y a 3 ans.
C'est vous, Yoav Rossano, qui trouvez les experts, les artisans qui travaillent avec le consistoire israélite du Bas-Rhin à la rénovation de ce genre de bâtiment, là, en l'occurrence, la synagogue de Wolfisheim?
Là, je veux beaucoup de chance d'avoir Claude avec nous. Parce que Claude, c'est un vrai yéke. C'est un vrai... voilà, ça nous aide énormément. Même avant démarche, on peut dire, de consistoire, d'avoir différents avis, etc. Claude, il fait ça automatiquement. Alors, c'est un grand plaisir de travailler avec Claude, toujours.
Je ne suis pas seulement Yeke, mais j'ai aussi été acheteur dans ma vie, et je sais comment il faut faire.
Voilà.
Mais ce qui est clair, c'est que Yoav est toujours dans le coup. On ne fait rien sans lui. Dès qu'il s'agit de patrimoine, même si c'est nous qui cherchons les fournisseurs, c'est lui qui avalise avec nous et on fait pas. Si lui n'avait pas été d'accord, on ne l'aurait pas pris, ce monsieur, ça c'est très clair.
Voilà, alors c'est un plaisir, en fait, de travailler ensemble. Et la chose qu'il faut ajouter, que c'est un plaisir de travailler aussi pour un bâtiment qui est actif, une communauté qui est en activité. Et ça, c'est magnifique. Parce que comme tu as vu avant, on a été dans différents cimetières, on a été dans différentes synagogues et des bâtiments qui ne sont plus en activité. Mais là, ça fait du plaisir. On va mettre quelques photos sur le site.
Et
on voit des enfants qui allument la Hanoukia. Il y a des membres de la communauté. C'est vraiment un plaisir de travailler et restaurer un bâtiment et synagogue pour les gens, finalement.
Pour des membres de la communauté.
C'est ça.
Alors, justement, on va parler de cette communauté de Wolfisheim. Elle remonte au même moment que la construction de cette synagogue,
si vous voulez,
des traces précédemment.
Il y a une petite histoire au niveau du Moyen Âge, mais j'en parlerai pas trop parce qu'en fait les historiens se contredisent les uns les autres, donc on ne sait pas trop.
Et selon vous,
on pense que sur notre site j'ai marqué que ça existait, mais qu'on n'en est pas sûr. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'en fait la vraie communauté, celle qu'on connaît maintenant, elle a démarré au XVIIIe siècle. Elle a démarré, en fait, lorsque les Juifs avaient l'interdiction d'habiter à Strasbourg. Et donc, tous les villages environnants, il y a eu un certain nombre de Juifs qui, en fait, habitaient dans ces villages, mais qui venaient travailler à Strasbourg. Et en fait, en 1785, il y avait 80 Israélites qui habitaient à Wolfisheim. Après, c'est allé en croissant. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres, mais le maximum a été 230 en 1870, juste avant la guerre.
Sur combien d'habitants au total?
Alors, je vais vous donner un chiffre. C'est un chiffre qui a été fait au 1er décembre 1880. Il y avait 168 maisons et il y avait 965 habitants. Sur les 965 habitants, il y avait 627 protestants, 196 israélites et 142 catholiques. Donc il y avait plus d'israélites que de catholiques. Ouais. Et je reviens un instant sur la synagogue. Le fait que la synagogue était sauvée, c'est parce que le village était protestant. Les protestants étaient beaucoup plus partisans des israélites que les catholiques à cette époque-là.
Et c'était une vie harmonieuse. Il y avait une vraie communauté de villages et des échanges entre, vous disiez, les protestants, les catholiques, ils étaient moins nombreux, et les israélites.
Alors, ce qui se passait, moi j'ai encore vécu ça, moi je suis né en 1950, j'ai encore vécu ça. Vous aviez un village sur deux qui était à chaque fois catholique ou protestant en majorité, en très grande majorité. Par exemple, à Wolfisheim, il n'y avait pas d'église catholique jusqu'à dans les années 70-80. Et en fait, les catholiques qui habitaient à Wolfisheim, ils allaient dans les villages à côté qui, eux, étaient catholiques. Et les protestants, par exemple, moi, je suis d'Oberschäffolsheim. À Oberschäffolsheim, il y avait très peu de protestants. Ils allaient à Wolfisheim. Ensuite, les juifs étaient très imprégnés, en fait, dans la vie du village, puisqu'en fait, ils avaient un certain nombre de métiers. Et ces métiers, il n'y avait qu'eux qui le faisaient. Le marchand de bestiaux, il était forcément juif.
Oui.
Hein, la personne qui s'occupait des taux et des métaux, c'était forcément un juif, etc. Donc en fait, il y avait un certain nombre de métiers qui étaient en liaison. Bon, c'était des villages d'agriculteurs, donc les juifs étaient en relation avec eux, n'étaient pas agriculteurs eux-mêmes, mais étaient en relation avec eux, et en fait, chacun avait son petit juif favori, quoi.
Donc il y avait une vraie, on va dire, cohésion, esprit de village, comme en milieu rural. Wolfisheim, à l'époque, ce n'était pas l'euro métropole, c'était un vrai village.
Absolument, c'était un vrai village. Même quand moi j'étais gamin, c'était encore des villages. En fait, moi je me souviens que moi j'allais à l'école à Kiba, et je me souviens que j'écrivais sur mes livres: j'habite Oberschäffolsheim, près de Strasbourg, parce que ça faisait un peu plouc d'habiter à Oberschäffolsheim. Donc, maintenant, c'est fini. À Oberschäffolsheim et Wolfisheim, pareil, sont des villages dortoirs et des villages qui font partie de la ville et qui font partie de l'Eurométropole.
Aujourd'hui, la communauté de Wolfisheim, dont vous êtes le vice-président, Monsieur Claude Hermann, elle représente combien de gens?
Alors, on va parler déjà du nombre de gens qui payent leurs cotisations.
Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une façon de les compter aussi.
Non, c'est une première façon de les compter, parce que là, c'est plus important. Il y en a, parce que c'est eux qui nous font vivre. ceux qui payent leurs cotisations. C'est puisque nous, on part du principe qu'à la synagogue de Wolfisheim, comme sont toujours les mêmes tous les Shabbats qui sont là, on ne demande pas de dons. Donc, en fait, il y a une cotisation pour ceux qui veulent payer une cotisation. Et là, il y a à peu près une petite quarantaine de cotisants. Mais les cotisants peuvent être des gens qui habitent à Londres, qui habitent au Texas, qui habitent à Paris. D'accord ? Donc, ça, c'est ceux qui nous font vivre. Parce qu'en fait, c'est le cimetière et son histoire qui fait vivre la communauté. Ce n'est pas le présent qui fait vivre la communauté. Ça, c'est une première chose. Et donc, au niveau des fidèles, on est en moyenne un Shabbat entre 12 et 15 personnes.
Il y a un office tous les Shabbats.
Tous les Shabbats, il y a un office. Et toutes les fêtes, il y a des offices. Mais on ne fait pas d'office ni en semaine, ni le vendredi soir.
Il y a un rabbin qui est...
Il y a un rabbin attitré. Alors, par historique, le rabbin attitré est toujours le grand rabbin du Bas-Rhin. Donc, à l'heure actuelle, c'est Harold Weil qui est notre grand rabbin. Bon, il vient de temps en temps pour des fêtes, mais autrement, le Shabbat n'est jamais là, et c'est normal.
Oui.
Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait ? D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les habitués de la synagogue, il y en a à peu près 3, 4, 5 qui habitent encore dans les villages. À Oberschäffolsheim, il n'y a pas un seul juif recensé. Il y en a peut-être.
Ah, il n'y a plus de famille de juives à Wolfisheim.
Ah, non, je parle d'Oberschäffolsheim, qui est un des trois villages. Hein. Si vous voulez, aujourd'hui, comme avec Wolfisheim, il n'y a jamais eu de synagogue. Oberschäffolsheim, elle a été détruite pendant la guerre, n'a pas été reconstruite. Mm-hmm. Et donc, aujourd'hui, la communauté de Wolfisheim regroupe Wolfisheim, Wolfisheim, Oberschäffolsheim. Oui. Donc, à Oberschäffolsheim, on ne connaît aucun juif recensé. Sur Wolfisheim plus Wolfisheim, il y en a 4 ou 5, dont le président, M. Riaï, qui habite à Wolfisheim. Mais pas plus, quand je dis 4 ou 5 hommes. Hein. Et par contre, probablement à Wolfisheim et à Wolfisheim, et même à Oberschäffolsheim, il y a certainement des Juifs qui y vivent qu'on ne connaît pas. Et c'est un de nos problèmes, c'est comment faire pour qu'eux nous connaissent et que nous les connaissions. Parce que notre objectif, c'est d'assurer la pérennité de notre synagogue. Et on est sûr qu'à aujourd'hui, comme ce sont des villages où les gens qui travaillent à Strasbourg habitent facilement maintenant, il y en a certains. Moi, je connais un peintre. David, il a un client qui s'appelle David Alouche. David Alouche, c'est juif, c'est sûr. Mais il ne se manifeste pas. D'accord ?
Il n'est peut-être pas pratiquant, tout simplement.
Il n'est peut-être pas pratiquant. Mais toujours est-il, il y a certainement des juifs dans ces villages qu'on ne connaît pas.
Ça, c'est un sujet qui est très, très intéressant parce que je vois ça partout, dans les Bas-Rhin. De manière générale, on a parlé plusieurs fois, il n'y a plus de juifs, presque plus de juifs, dans les petits patelins, on peut dire, c'est fini. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, des juifs, qui s'habitent un peu à droite, à gauche, qui ne prennent pas un parti.
Qui se réinstallent dans les campagnes, mais qui ne se font pas connaître.
Sont peut-être
pas
Alors, par exemple, aujourd'hui, dans les fidèles que nous avons, il y a un monsieur de Truchtersheim, il y a un monsieur de Fegersheim. Oui. Il y a des gens qui, en fait, ont bien aimé, parce que notre ambiance, l'ambiance de cette synagogue est très particulière. D'abord, il y a la synagogue elle-même qui a une âme. Ensuite, il y a un mélange hétéroclite d'Ashkenazim et de Sfardim. Et ça marche très bien. Il n'y a aucun souci. Le président, il est Sfarad. Moi, je suis Ashkenaz. Il n'y a pas de problème. Et tout le monde est content parce qu'en fait, la façon dont les prières sont faites, c'est un peu un mélange des deux. Hein? Donc, sauf Rosh Hashanah Kippour, où on tient au rite Ashkenaz. Mais tout le reste, on fait un peu les deux. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que... Le président qui a précédé David Riaï, qui s'appelait M. Kahn, a eu une idée géniale. Il a dit, plutôt que de payer un ministre officiant, je vais faire venir des jeunes de Strasbourg. Et donc, depuis 1995, et c'est encore vrai aujourd'hui, on a en moyenne 3-4 jeunes qui viennent tous les Shabbats, qui font les offices, et qui viennent à pied, bien sûr, qui font les offices et qui font la lecture de la Torah et qui, en même temps, nous aident à avoir le minyan. Quand je vous dis 3-4 jeunes, les fois où on est 12, sans eux, on n'est pas minyan. Puisque le minyan, c'est 10 personnes. Et alors, on a un peu amélioré, depuis ce que M. Kahn a fait, c'est que maintenant, on a créé un groupe WhatsApp. Et tous les vendredis, on initialise ce groupe WhatsApp et on sait avant le Shabbat si on va être minyan
si
ou pas.
Vous êtes le bon nombre.
Et en fonction de ça, le groupe d'étudiants vient en plus grand nombre ou pas. Donc, la moyenne, c'est 3-4. Quelquefois, s'il le faut, ils viennent à 5. Mais c'est très rare. Et donc, on vient de faire une statistique. sur les 100 dernières fois qu'on a fait office, on n'a pas été mignonne une fois sur 100. Donc, c'est un système qui marche bien. Bon, sauf avec les gens très, très âgés qui ne veulent pas utiliser WhatsApp. Mais ceux-là, on les interview avant. Mais il n'y en a pas beaucoup. Les 90% des gens participent à ce truc-là et ça marche.
C'est un effort des étudiants par exemple, là, moi, Strasbourg de marcher jusqu'à
Ah oui, ah oui, ils ont 3 heures. Hein. Ils ont 1h30 aller, 1h30 retour.
C'est une façon d'être solidaire.
Et en même temps, et puis ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que ce n'est pas toujours facile parce que quand il pleut, quand il ne fait pas beau, qu'il faut se lever tôt, etc., ce n'est pas toujours amusant, mais ils le font. Et le groupe qu'on a à l'heure actuelle, qui est managé par un garçon qui s'appelle Avi Klings, que tu connais peut-être, Yoav, il est formidable. Je veux dire, depuis qu'on est avec eux, ça se passe formidablement bien et ils sont très, très gentils. Et Avi, comme il organise, ben, quand il ne peut pas, parce qu'il est marié, jeune homme, quand il ne peut pas, quand il a autre chose, il s'arrange pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent et ça marche très bien. Vraiment, il n'y a aucun souci. On est très, très satisfaits.
Alors, vous parliez de la solidarité des membres de la communauté juive du Bas-Rhin, entre eux, vous le disiez, les étudiants. À l'intérieur du village, cette synagogue, c'est un patrimoine précieux également pour les gens du village. Vous sentez un intérêt. Alors, elle n'est peut-être pas ouverte à la visite tout le temps, mais il y a les journées du patrimoine, alors, ce genre de choses. Les gens montrent de l'intérêt.
C'est vrai que les gens, en tout cas les habitants de Wolfisheim, sont intéressés parce qu'elle est belle. Et donc, en dehors des journées du patrimoine, sauf depuis le Covid, Monsieur Kovar, qui est un historien que vous connaissez certainement,
qui fait des émissions ici à Radio Judaïka,
voilà, venait une fois tous les ans avec des groupes pour faire des visites. Et on a aussi un monsieur d'origine hollandaise, je ne sais plus son nom, qui organise des visites des synagogues en bicyclette avec l'office de tourisme de Strasbourg. Et donc, il est venu aussi plusieurs fois déjà faire des visites. Donc, c'est vrai que c'est... Et puis, par exemple, j'ai aussi eu des gens qui viennent de s'installer dans Wolfisheim, qui nous disent qu'ils voudraient absolument voir cette synagogue. Et donc, on peut aussi les faire visiter. Nous, il n'y a pas de problème. Tous les Shabbats, on est là. Donc, on peut rester une demi-heure de plus et leur montrer.
Je confirme, elle est très, très belle. Elle est très chaleureuse. Et vous le disiez, il y a de bonnes ondes. Il y a quelque chose dans cette synagogue. On a parlé de la synagogue. On va parler également du cimetière, du cimetière juif de Wolfisheim. Il y avait une communauté assez importante, vous le disiez. De quel moment on retrouve des traces de stèles qui sont datées?
Alors, c'est à peu près la même période que la synagogue. Auparavant, les gens de Wolfisheim et alentour étaient enterrés dans des cimetières plus anciens, style Rosenwiller, Westhofen, d'autres. Pas à Strasbourg, mais dans des villages. Ouais. Et pas Ettendorf, je suis sûr, mais bon, un certain nombre de villages qui avaient des cimetières importants. Et en fait, le cimetière, il date d'à peu près la même période que la synagogue, c'est-à-dire vers les années 1900. Et en fait, dans le cimetière, vous avez deux parties. Quand vous rentrez dans le cimetière, à votre droite, il y a toutes les tombes qui sont antérieures à 39-45, qui sont des tombes en pierre, où vous avez des symboles comme le symbole de Kohanim, des symboles comme le symbole de la colonne brisée pour les enfants, les Levim, où vous avez les vases. Vous avez aussi souvent... Alors, il y a beaucoup de tombes où il y a des écritures qui sont seulement en hébreu, et il y en a d'autres où l'écriture est en hébreu d'un côté et en français dans l'autre, dans la partie ancienne. Alors que dans la partie nouvelle, c'est le français qui domine. En général, c'est du marbre, soit couché, soit en stèle verticale. Et la plupart des gens marquent la majorité des choses en français et ajoutent en général le nom et le jour du décès, le jour de la naissance en hébreu. Ce qu'il faut dire, c'est que contrairement aux grands cimetières que vous avez déjà dû visiter, les personnalités qui sont enterrées dans le cimetière de Wolfisheim sont des personnalités locales, c'est-à-dire des chazanim, des parnassim qui ont été, par exemple, celui qui a construit la synagogue, qui était parnasse au moment de la synagogue, qui s'appelait Marc Smeyer, ce Max Meyer, en fait, est enterré là-bas. Et son arrière-petit-fils habite Londres et est un de nos cotisants et vient, parce que son père aussi est enterré là, vient tous les ans de Londres visiter. J'ai retrouvé aussi une descendance de ce Max Meyer, tout à fait par hasard, un soldat US qui est venu un samedi à la synagogue, qui a dit « Mes ancêtres sont d'ici ». Et en fait, c'était aussi un descendant de ce Max Meyer. Donc sont les, pour parler des présidents d'après-guerre, je peux vous donner quelques noms. Les gens d'après-guerre, c'est Gaston Meyer est enterré, un autre Gaston Meyer est enterré. Mon père, qui était aussi pendant président, est enterré aussi là. Ensuite, M. Kahn, le président dont je parlais, qui a aussi été enterré. Et alors, vous avez un certain nombre de Khazanim. M. Bikar, un Khazan aussi, qui a été Khazan pendant de très nombreuses années avant la guerre au Berchevolsheim et après la guerre à Wolfisheim, qui s'appelle M. Singer, dont la petite-fille vit encore à Wolfisheim. C'est une des familles juive qui vit encore à Wolfisheim. Tous ces gens-là sont enterrés au cimetière. Alors, dans les personnalités qui ne sont pas des personnalités propres à Wolfisheim, sont enterrés Edgar Roth, qui est en fait qui a été vice-président de la communauté de Strasbourg et qui a été, il y a un square Edgar Roth au Comtat, et qui a été un des fondateurs de la synagogue de la paix. Ah oui, une autre personne, c'est aussi une histoire à raconter, très particulière à Wolfisheim. C'est la personne qui tenait l'hôtel Henriette. L'hôtel Henriette, avant la guerre 39-45, c'était l'hôtel où tous les bourgeois juifs de Strasbourg venaient fêter leur mariage. C'était vraiment l'hôtel chic. Et en fait, c'était à Wolfisheim. Et cette dame, Henriette en l'occurrence, et d'ailleurs, ses descendants aussi, son fils, sont enterrés à Wolfisheim. Donc, c'est notre sommité locale. C'était l'hôtelière chic de l'avant-guerre qui faisait aussi des fêtes. En dehors de ça, non, il n'y a pas beaucoup de gens très connus dans ce cimetière. Par contre, ce que nous avons fait il y a 3 ans, nous avons fait un inventaire du cimetière. Alors, ce que j'ai oublié de dire qui est très, très important, le cimetière, c'est non seulement le cimetière d'Egbolsheim, Wolfisheim, Oberschevolsheim, mais c'est aussi le cimetière de Lingolsheim, qui a encore sa propre communauté, mais le cimetière est commun de tout temps. Et donc, ce qui est assez bizarre, donc, sur l'inventaire, il y a eu 300 noms. Sur les 300 noms, il y a 92 meilleurs.
Et vous avez une explication?
Ben,
c'est une famille, une seule?
Non. À Wolfisheim, tous les Juifs s'appelaient Meyer. De la même manière qu'à Bolvillers, par exemple, tous les Juifs s'appellent Grumbach. À Turckheim, ma mère était de Turckheim, tous les Juifs s'appellent Geismar. Et à l'origine, probablement, il y a un ancêtre commun. Il y a de fortes chances. Pour les Geismar, parce que j'ai un ami qui a fait la généalogie de notre famille, il est remonté jusqu'à 1400 et des briquettes. Mais c'était le même Geismar qui était l'ancêtre de tous. Et donc, on a 92 Meyer. Et alors, par exemple, à Lingolsheim, je ne sais pas si tu connais le nom de Lingolsheim, mais tu devrais, c'est Heimann.
Oui.
Tous les Juifs, ou presque tous les Juifs à Lingolsheim s'appellent Heimann, ce qui fait que derrière les Meyer, il y a 38 Heimann. Donc sur les 300 tombes, 92 Meyer et 38 Heimann. C'est-à-dire qu'avec deux noms, vous avez pratiquement 50% de... 50%, ouais. Voilà. Donc ça, c'est assez particulier. Le reste, après, on descend tout de suite. Il y a des Veil, mais des Veil, il y en a partout. Des Veil, il y en a à peu près autant que des Heimann. Et après, c'est... Par exemple, ma famille à moi, mon arrière-grand-père venait de Westhofen et sa femme était de Berchevolsheim. Donc, dans le cimetière, il y a aujourd'hui 4 générations. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et malheureusement depuis peu ma belle-sœur. Donc, il y a 4 générations enterrées. Alors, j'en profite pour parler de ma belle-sœur 2 minutes. C'est vraiment personnel parce qu'elle s'est occupée de ce cimetière pendant 20 à 30 ans et qu'elle vient de mourir. Et elle et mon frère, c'était les chevilles ouvrières de cette communauté pendant des années et des années, aussi bien sur le cimetière que sur la synagogue. Voilà.
Vous avez bien fait d'évoquer sa mémoire. Monsieur Claude Hermann, donc je rappelle, vous êtes vice-président de la communauté de Wolfisheim. Vous êtes un puits de science, vous nous avez régalé. Merci infiniment de votre intervention aujourd'hui pour nous parler et de la synagogue et du cimetière de Wolfisheim. Et puis Parlons Patrimoine est une émission pour rendre hommage ainsi aux vice-présidents des communautés, des présidents et des gens qui œuvrent pour le patrimoine du Bas-Rhin. C'est pour ça que j'en profite pour remercier également Yoav Rossano.
Ben, merci à toi. Un petit mot, ma science, c'est le site. Donc, oui. Tous ceux qui veulent en savoir plus sur Wolfisheim, voyez le site de la communauté israélite de Wolfisheim, tout est dedans, avec de belles photos en plus.
Merci.
Merci.